Bonjour à toutes et à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria Brown, Aliette Ovine et Eliott Baucher, à la réalisation Anne de Pelchin, à la technique d'Alia.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Une nouvelle semaine s'offre à nous et avec elle une nouvelle série consacrée à l'économie de la construction. Casque de chantier sur la tête et marteau-piqueur dans les mains, nous allons vérifier cet adage prononcé par le maçon et député Martin Nadeau en 1850. Quand le bâtiment va, tout va. Autrement dit, la construction est-elle encore au cœur de la croissance de nos économies ? Demain, nous retracerons l'histoire tourmentée des travailleurs du BTP, l'une des main-d'œuvre les plus précaires qui soit. Mercredi, près d'un siècle après le New Deal, les politiques de grands travaux sont-elles un bon outil de relance ? Jeudi, enfin, on observera la formation des bulles spéculatives dans le secteur de l'immobilier. Mais d'abord, explorons le marché mondial du sable, une ressource de plus en plus disputée. Il est 14h sur France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Le business des marchands de sable, c'est notre sujet aujourd'hui en compagnie de Pascal Peduzzi, en duplex de Genève, directeur du GRID, le programme des Nations Unies pour l'environnement, également professeur à l'université de Genève, en compagnie également de Julien Bueb, économiste de l'environnement et co-auteur de Géopolitique du sable, entre rareté, conséquences environnementales et enjeux diplomatiques, une étude récemment parue sur le site DiploWeb. Et à 14h50, on retrouvera le journal de l'Écho, présenté comme chaque jour par Xavier Martinez. Julien Bueb et Pascal Peduzzi, bonjour.
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 Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on a longtemps cru que le sable qui permet de fabriquer le béton était une ressource quasiment inépuisable. Il faut dire que les réserves mondiales sont estimées à 120 millions de milliards de tonnes. Et pourtant, on se dirige potentiellement vers une pénurie de sable et de gravier. Pascal Peduzzi, comment l'expliquer ?
Alors, la pénurie ne sera pas globale, mais dans certains endroits, puisque nous avons extrait le sable et le gravier des endroits les plus faciles d'accès, eh bien, on observe effectivement peut-être une raréfaction de la ressource. Après, la question est surtout, est-ce que c'est les impacts environnementaux qui sont subis, comment est-ce qu'on peut faire pour les minimiser ? C'est plutôt ces impacts environnementaux sociaux qui sont, pour l'instant, sur notre radar. La raréfaction, elle existe dans certains cas, elle existe aussi dans certains types de sable, parce qu'on appelle ça sable, mais il y a plusieurs usages du sable.
Oui, alors justement, il faut expliquer qu'effectivement, l'ensemble du sable n'est pas exploitable et il faut différencier les trois types de sable, Pascal Peduzzi.
Oui, alors nous avons les sables de qualité pour faire de la construction, donc du sable assez peut-être plus commun, qui est utilisé donc mélangé avec le ciment, de l'eau pour et du gravier pour faire du béton. Nous avons du sable du désert qui lui est beaucoup plus fin, qui ne peut pas être utilisé à des usages de la construction ou bien pour gagner du terrain sur la mer. Et nous avons finalement du type de sable qui est industriel, qui est beaucoup plus rare, qui peut être servir à dans un de faire du verre, mais surtout avec des utilisations beaucoup plus pointues encore, même pour l'informatique, avec des sables extrêmement propres, extrêmement dénués de toute contamination.
Julien Bueb, on fait face à une raréfaction de cette ressource et en même temps à des conséquences environnementales de l'extraction du sable qui sont de plus en plus importantes.
Oui, en effet, la raréfaction est toujours un problème relatif à différentes techniques de production, d'extraction, des problématiques énergétiques, car on pourrait dépenser des quantités astronomiques d'énergie pour extraire n'importe quel type de ressource, le sable en fait partie, mais évidemment, la problématique énergétique revient sur le devant de la scène. Et qui dit consommation énergétique dit aussi problématique environnementale, pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Et effectivement, il y a des conséquences directes ou indirectes dues à l'extraction de sable. Donc directes, généralement sur la biodiversité, indirectes en termes de changement climatique, puisqu'on dépense beaucoup d'énergie pour en extraire, ou en tout cas de plus en plus.
Et donc raréfaction de la ressource, et en même temps, une consommation de sable qui a véritablement explosé avec le boom de la construction dans les pays émergents, Pascal Peduzzi.
Oui, effectivement, notre utilisation de sable et de gravier a triplé dans les deux dernières décennies, avec notamment une explosion plutôt dans l'Asie, avec la Chine en premier lieu, avec 58% de l'utilisation de ciment dans le monde. L'Asie, qui connaît un vraiment boom économique et aussi en exode rural vers ces populations qui vont chercher du travail dans les villes, et donc il faut construire ces villes, construire des routes, des barrages, des hôpitaux, des aéroports, etc. Donc tout ce boom de développement occasionne une demande, absolument le corollaire, c'est de cette demande sur le sable.
Et c'est un phénomène qui n'est pas prêt de s'arrêter, Pascal Pedouzi, parce qu'on a 54% de la population mondiale qui vit aujourd'hui en zone urbaine, et c'est un chiffre qui devrait atteindre 66%, je crois, en 2050.
Oui, et rajouter à cela que la population africaine va doubler, plus 1,27 milliard d'habitants d'ici à 2050. Donc toute cette population qui, en plus, a besoin d'infrastructures déjà actuellement, qui est en retard sur ces infrastructures de santé, d'école, de développement. Donc accumuler à cela, si on prend l'augmentation de la population, l'exode rural, et puis le fait qu'il faut combler ce retard sur le développement, ça va donner une pression formidable sur le sable et le gravier, qui est vraiment ce héros invisible de notre développement, dont nous dépendons pour toutes nos infrastructures.
Donc la Chine, Julien Lueb, tire aujourd'hui cette consommation mondiale de sable et de gravier, et demain ce sera peut-être le continent africain.
Exactement. Il y a une véritable corrélation entre, de toute façon, l'urbanisme et le développement, et donc l'utilisation du sable en général.
La Chine aurait consommé en quelques années seulement autant de sable que les États-Unis en un siècle. Ça permet de prendre un petit peu la mesure de cette consommation.
Effectivement, c'est ce que j'ai lu également. Mais ça, c'est pour les facteurs principaux, en tout cas, d'augmentation de la consommation de sable. On pourra éventuellement en citer quelques autres. Je pense actuellement, en fait, comme les taux d'intérêt sont bas, ça alimente le bâtiment, c'est du bâtiment et la construction du bâtiment, et parce qu'il y a des flux massifs d'investissement dus au taux d'intérêt réel extrêmement bas, et du coup ça alimente les bulles immobilières.
On en parlera jeudi.
Voilà, très bien. Il y a aussi tout ce qui est aux États-Unis, fracking, donc les techniques en fait d'extraction d'huile.
La fracturation hydraulique.
Exactement, fracturation hydraulique, gaz de schiste, pétrole de schiste, qui en consomme énormément aux États-Unis. Mais ça reste mineur par rapport à ce que M. Pedouzi a dit, effectivement, où l'urbanisme est le driver principal en tout cas.
On voit effectivement qu'il y a plusieurs usages du sable, alors à commencer bien sûr par le BTP, la fracturation hydraulique, mais aussi on peut citer les vitres. Un certain nombre de nouvelles technologies, également la poldérisation, Pascal Pedouzi, c'est-à-dire ces avancées, ces territoires gagnés sur la mer.
Oui, alors effectivement, l'immobilier a ses raisons que la raison ignore. Donc on voit des convoitises dans certains territoires qui se trouvent exiguës et qu'on va augmenter artificiellement en important du sable. Alors c'est le cas à Dubaï. En fait, à Dubaï, il y a même 30% de la zone de bureaux et d'habitations qui est vide. Donc il n'y a pas des réels besoins pour gagner du terrain sur la mer. Mais c'est réalisé pour faire des résidences secondaires, donc à des vues spéculatives. On peut le voir par l'espace, visuellement c'est assez impactant. Et puis le cas de Singapour est assez exemplaire, dans le sens que le pays de Singapour, le pays ville disons de Singapour, a augmenté son territoire de 20% depuis les années 70 en prenant du sable importé de ses pays voisins, donc l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande et le Cambodge, qui ont actuellement tous les quatre maintenant interdit l'exportation de sable vers Singapour du fait des impacts sociaux et environnementaux que cela générait dans leur propre territoire.
Alors à propos de terrain gagné sur la mer, je vous propose d'écouter Bill Clinton nous parler du projet Eco Atlantic City, qui prévoit justement de créer un quartier de luxe au Nigeria sur ce type de terrain.
Ils ont repris 5 millions de mètres carrés de terre à la mer. Ils ont construit le début de cet incroyable mur. C'est un exploit technique ingénieux. C'est quelque chose qui, je vous le dis, va attirer d'innombrables personnes qui viendront ici pour l'étudier. C'est un engagement qui, finalement, n'aidera pas seulement à faire du Nigeria un pays du 21e siècle, mais aussi à faire venir des gens de tous les coins du monde. Cela aidera à faire comprendre qu'il existe des moyens accessibles et même profitables de vivre en harmonie avec une nouvelle réalité naturelle, et ce, pour n'importe qui.
Julien Bueb, ce qu'on entend ici, c'est que c'est aussi une manière d'attirer les investisseurs et de braquer les projecteurs sur le Nigeria que de lancer des grands projets comme celui de ce terrain gagné sur la mer, ou alors on peut aussi penser à la Burj Khalifa, la tour la plus haute du monde qui se trouve à Dubaï.
Oui, qui a nécessité, je ne sais plus combien, plusieurs dizaines de milliers de tonnes importées d'Australie pour être construites. Oui, effectivement, mais là, on rentre en plein dans la contradiction entre volonté économique, business en quelque sorte, et problématique environnementale. Donc, il y a une vraie confrontation en fait des choses. C'est une aberration environnementale ce qu'on vient d'entendre.
Et justement, à quand remonte cette prise de conscience des nombreux dégâts environnementaux causés par l'exploitation du sable, Pascal Pedouzi, dégâts qui sont, comme on l'a dit, aggravés par la raréfaction de ce qu'on appelle les granulats, qui sont à la fois le gravier et le sable.
Oui, alors c'est quelque chose. La prise de conscience est assez tardive pour en fait un matériel qui est le deuxième après l'eau que l'on utilise pour notre développement. Donc c'est assez curieux que finalement nous ne soyons pas rendu compte beaucoup plus tôt des impacts que nous avions sur l'environnement avec l'extraction de sable. Donc, il faut savoir qu'on en extrait quand même 50 milliards de tonnes par année. C'est un chiffre qui est tellement élevé qu'il faut une petite image pour essayer de se faire une idée. C'est avec ça vous pouvez faire un tas de sable de 30 mètres de haut, 30 mètres de large autour du monde chaque année. Ça, c'est la quantité que nous utilisons, à peu près donc 18 kilos de sable par personne et par jour dans ce monde. Donc, vous ne pouvez pas extraire une telle quantité sans avoir des impacts environnementaux énormes. Et c'est effectivement ce qui se produit. Malheureusement, c'est quelque chose que nous avons regardé sur le tard parce que nous avons dans notre inconscient cette relation avec le sable, ces cailloux qui finalement, pour nous, sont du matériel relativement banal. Et il faudrait en fait reconsidérer cette perception que nous avons des agrégats qui en fait, si votre développement dépend entièrement de cette matière, ou en tout cas largement de cette matière, vous devez la considérer comme un matériel stratégique et non pas comme quelque chose de banal. Donc je pense qu'il y a un gros travail à faire à ce niveau-là.
Et concrètement, Pascal Pedouzi, quelles sont les conséquences sur l'environnement des techniques d'extraction du sable qui sont de plus en plus agressives ?
Alors ça dépend où vous allez l'extraire de sable. Dans le meilleur des cas, vous allez l'extraire dans une carrière ou bien au bas d'une montagne, en faisant une carrière à flanc de montagne, donc la roche concassée ou bien des dépôts de l'origine glaciaire. Et là, dans ce cas de figure, vous avez une concession qui est octroyée en exploitant, donc vous savez où ce sable il est pris, vous pouvez donner cette concession, vous pouvez les donner en certains volumes à un opérateur, et vous pouvez contrôler que ceci est fait dans les normes. Ça, c'est le meilleur cas de figure, parce que dans ce cas-là, le sable, il est dans un milieu statique, c'est-à-dire qu'il n'est pas, il n'a pas un rôle dans l'écosystème. Par contre, bon, vous avez quand même un impact sur le paysage, on va déforester pour accéder à cette carrière, on va utiliser de l'énergie, donc il y a un impact, mais il peut être maîtrisé, et on peut même renaturer le site après extraction.
Il est bien important, en tout cas, que le dragage en haute mer, par exemple.
Ben c'est ça, c'est que quand vous prenez le sable dans un endroit qui est dynamique, c'est-à-dire que ce soit dans les plages, dans les rivières ou dans les fonds marins, là, le sable fait partie d'un écosystème et vous allez avoir énormément d'impact sur l'environnement. Donc ça peut être l'érosion des berges d'une rivière, le changement du cours d'eau de cette rivière avec de l'eau qui coule plus rapidement ou plus lentement, occasionnant des sécheresses ou des inondations, un changement de la turbidité de l'eau qui va affecter les poissons et donc la pêche et la biodiversité, une érosion des côtes dans le cas d'une extraction côtière ou sur la plage, en manque de possibilités de développement touristique une fois que la plage a été exploitée, ou bien encore des impacts dans les océans, de turbidité de l'eau, de biodiversité, de la même manière que dans les rivières, avec ce sable qui est aspiré par ces énormes bateaux, et donc qui ont des impacts environnementaux colossaux dès lors qu'ils stérilisent le fond marin en broyant tous ces micro-organismes qui sont à la base même de la chaîne alimentaire de nos océans.
Alors vous l'avez dit, Pascal Pedouzi, les plages notamment sont de plus en plus menacées par l'extraction du sable, or elles jouent un rôle essentiel dans l'écosystème, comme nous l'explique le géologue Éric Chaumillon.
La plage est vraiment quelque chose d'extrêmement important puisque c'est le cortège sédimentaire qui va finalement protéger des attaques de l'océan. Alors il y a un terme anglais qu'on traduit littéralement, qui est le terme de barrière sédimentaire, qui montre bien la signification de ce cortège sédimentaire, c'est-à-dire que c'est une barrière face à l'océan. Et si vous fragilisez cette barrière, bah, évidemment, vous allez fragiliser tous les habitats qui sont derrière. Alors, ça a deux conséquences. D'abord, c'est simplement une histoire d'espace. Quand on voit que les plus grandes mégapoles du monde sont au bord de la mer, comment on va assurer un repli si les côtes reculent? Et puis, c'est aussi une barrière par rapport aux submersions. Alors, les submersions, on les connaît, hein, ce sont les tsunamis ou alors les surcotes qui sont liées aux tempêtes.
Ce qu'on entend bien, Julien Bueb, c'est que l'extraction du sable et la montée des eaux peuvent entraîner la disparition d'un nombre croissant de plages et de petites îles. Ça a déjà largement commencé.
Oui, effectivement, ça, c'est une vraie problématique. Et plus que les petites îles et peut-être les sables, en fait, effectivement, ce qu'on vient d'entendre, c'est au niveau des mégalopoles, mais également au niveau des zones côtières, sont des zones ou fortement urbanisées, mais également c'est là où il y a le plus de terres arables. Donc la montée des eaux est un problème avec la disparition des plages qui protègent, etc. Je vais par contre tout ce qui vient d'être dit parfaitement bien. Et il y a vraiment il y a une boucle qui s'entraîne, c'est-à-dire que avec disparition des sables ou des îles, il y a des migrations qui vont être entraînées parce que les populations ne vont plus vivre, par exemple, de pêcherie. Et donc, elles vont migrer vers les mégalopoles, problématique de développement. Les mégalopoles vont devoir essayer de se développer en gagnant sur la mer, en extrayant du sable ailleurs. Et ce qui va entraîner la disparition d'autres plages, d'autres sables, etc. Et en plus, créer de l'érosion des zones agricoles.
Aux Maldives, ce sont déjà 120 îles qui ont dû être évacuées, ce qui pose toute une série de questions d'ordre juridique. Par exemple, est-ce qu'un État peut exister sans posséder de territoire terrestre ? Et est-ce qu'il peut conserver ses droits sur son espace maritime ? Il y a toute une réflexion à mener d'ordre juridique, Pascal Peduzzi.
C'est intéressant. Alors, le côté juridique n'est pas du tout mon côté, puisque moi je suis scientifique de l'environnement, mais c'est très intéressant ce que vous dites. Est-ce que vraiment on peut exister sans avoir une assise territoriale? Et ça va être le cas avec la montée des eaux. On peut perdre effectivement des territoires qui comme Tuvalu ou autres, qui culminent à peut-être 1 mètre ou 1 mètre 50 au-dessus des flots. Et c'est vrai que cette problématique va se poser dans le cadre du changement climatique. Une autre chose, même avant même que le territoire soit submergé ou qu'on aille éroder toutes ces plages, ces petites îles, en fait, peuvent être vivables que si vous avez de l'eau douce. Et cette eau douce, elle flotte sur l'eau salée. Et si vous enlevez du sable des plages, vous enlevez cette protection contre ces aquifères d'eau douce. Et ce qui rend, effectivement, une fois que vous trouvez les saumâtres, ça vous rend le territoire inhabitable, bien avant même qu'il soit même submergé par des ondes de tempête ou par l'élévation du niveau des mers.
Alors, il pourrait y avoir beaucoup d'évolutions, parce que d'après la Convention des Nations Unies qui a été signée à Montego Bay en 1982, les frontières maritimes des États sont déterminés à partir de leurs côtes. Or, avec l'érosion des littoraux, on peut imaginer que les espaces maritimes vont évoluer, Julien Bueb.
Oui, alors là-dessus, moi non plus, je ne suis pas expert juridique, mais pour le travail que j'en ai fait avec Lina Pamar sur l'article qu'on a publié, en fait, il y a un gros vide juridique en fait qui existe concernant en fait soit la polarisation. Alors là, c'est quand on gagne du terrain sur la mer, mais aussi dans le cadre de la disparition. Dans le cadre de la disparition, il semblerait qu'en fait la zone délimitée, la zone géographique du pays et la zone économique exclusive ne soient pas altérées. Jusqu'à quand, je ne sais pas, puisque pour l'instant, ce n'est pas précisé. Et quant à la polarisation, quand on gagne sur la mer, là, par contre, il est certain que pour l'instant, ça ne doit pas affecter la frontière, la zone économique exclusive, et ça ne doit pas gagner d'autant sur cette zone exclusive.
Mais c'est en tout cas un vide juridique qui peut entraîner un certain nombre de conflits entre États, Julien Bueb.
Exactement. Alors, pour l'instant, il y en a autour de Singapour, c'est ce qui a été évoqué. Hein. Il y a pas mal de conflits, mais qui ne sont pas, comment dire, qui sont d'ordre géopolitique et géostratégique autour de la ressource et de l'exploitation de la ressource, parce que ça entraîne des conséquences économiques. Elles ne sont pas directement liées à des conflits de territoire, comme on peut avoir en géopolitique, où on conteste un territoire, là, ça pourrait être un territoire marin, ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Mmh. Mais évidemment, ça pourrait le devenir. En mer de Chine, par contre, la polarisation de certains îlots immergés, la plupart du temps, et le fait de construire deux, trois choses dessus, pose aussi un problème parce qu'il y a une militarisation de ces polders. Et du coup, là, ça entraîne d'autres conséquences, en fait, en termes de conflits latents.
Alors, on voit que ça ouvre toute une série de questions et on a envie d'en savoir un petit peu plus sur le fonctionnement du marché du sable. Julien Bueb, d'abord, peut-être, quelles conséquences de cette raréfaction relative, on l'a dit, du sable sur les prix. On voit que les questions géopolitiques, justement, si on cite par exemple Singapour, ont une influence importante sur la formation des prix.
Ben oui, effectivement, dès lors qu'il y a raréfaction, généralement, il y a une augmentation des prix qui va de pair. Maintenant, l'explosion des prix n'est pas encore là. Les marchés de matières premières sont très volatiles. Les ressources sont, les quantités sont abondantes, certes, mais tout avec une rareté relative. Et il peut y avoir des retournements de tendance en fonction de la conjoncture économique générale.
Ce qu'il faut peut-être expliquer, c'est que c'est une ressource qui circule peu, une marchandise.
Exactement.
Qui circule peu.
Les marchés sont très, comment dire, localement géographiques, c'est-à-dire que les ressources, effectivement, servent davantage généralement à la production locale, à l'alimentation en fait de l'économie locale. Le commerce international représente une part relativement faible par rapport en fait à toutes les quantités astronomiques de sable qui sont utilisées dans le monde.
Et dans le cas de Singapour, la tonne de sable était passée de 3 à 190 dollars après que l'Indonésie ait interdit l'exportation de sable au début des années 2000. Et ce qui peut également faire monter les prix, Pascal Peduzzi, ce sont un certain nombre d'initiatives prises par les États. Je pense en particulier à la Chine qui a fermé de nombreuses cimenteries. Alors en raison de leurs mauvaises pratiques, ça c'est ce qui était affiché. Mais le résultat de cela, c'est que le marché du ciment y est un des plus rentables au monde parce qu'il est de plus en plus concentré.
Bon, il faut voir un petit peu dans sa globalité, parce que le ciment, c'est aussi un énorme impact sur le climat. Donc c'est aussi pour ça que chaque tonne de ciment, en fait, produit quasiment une tonne de CO2. Donc c'est aussi pour ceci, que c'est pas que pour la réfraction de sable qu'il faut modérer l'utilisation de cette ressource, mais également pour toutes sortes d'autres raisons. Donc là, que ce soit l'imperméabilisation des sols par nos routes, etc. Donc d'une certaine manière, il faut aller vers un développement qui est plus durable, vers une économie plus circulaire, et beaucoup mieux penser à long terme nos développements, sans avoir vraiment cette vision de spéculation actuelle avec un grand boom, et en pensant qu'on va pouvoir rentabiliser ces infrastructures en construisant tout n'importe quand et n'importe où. Donc il faut une bien meilleure pensée et vraiment réfléchir de manière stratégique. Qu'est-ce que nous avons besoin pour notre développement? Comment construire à long terme? Comment minimiser finalement nos demandes en ressources naturelles pour atteindre le développement durable, puisque c'est dans la définition, un développement qui n'est pas durable, c'est un développement qui s'arrête. Donc c'est pas seulement faire plaisir aux écologistes dont je fais partie, c'est aussi pour arriver à soutenir l'économie, à soutenir nos gouvernements dans leur perspective de développement à long terme.
Et alors l'une des réflexions actuellement menées, c'est sur la possibilité de faire payer en quelque sorte aux entreprises les externalités négatives que leur activité provoque. Il y a de plus en plus de questionnements autour du fait d'imposer des taxes quant à l'extraction du sable, Pascal Peduzzi.
Alors bon, quand on fait payer aux entreprises, c'est toujours au final aux clients qu'on fait payer. Mais il y a une manière d'inciter comme ça à des meilleures pratiques. Par exemple, au Royaume-Uni, en taxant finalement la mise en décharge les matériaux de démolition qui étaient entreposés, donc qui demandent beaucoup de place également en décharge. Donc depuis 1996, ces pratiques sont taxées, ce qui a donné une réflexion à ce secteur de la déconstruction, de comment est-ce qu'ils pouvaient minimiser leurs coûts. Et ils ont minimisé leurs coûts en recyclant ces matériaux, ce qui fait que par corollaire, on n'a pas besoin d'aller prendre autant de matériaux dans la nature. Donc ça permet de gagner sur deux points de vue. D'abord, sur le fait qu'on va moins avoir besoin d'espace en décharge, et on va avoir moins de prélèvements dans la zone naturelle. Donc c'est quand même intéressant de pouvoir taxer pour changer ces pratiques, quitte avec l'argent de la taxe, de subventionner d'autres pratiques, par exemple le recyclage. Et par rapport au recyclage, maintenant, on arrive à recycler du béton de manière quasiment arrivée à 100%. Il y a des nouvelles techniques qui permettent de broyer gentiment. Alors ça paraît, on dirait en oxymore, s'en étant, mais si vous broyez de manière trop énergétique, vous allez produire beaucoup de poussière et vous allez perdre 30% de la matière. Si vous broyez gentiment, vous arrivez à récupérer quasiment la totalité du matériel, et donc c'est très intéressant du point de vue économique.
Alors on va parler effectivement de la question du recyclage, mais aussi des substituts qui peuvent exister, des substituts au sable, mais d'abord il faudra voir que dans certains pays, ces politiques visant à réguler le marché du sable et à changer les pratiques se multiplient et favorisent dans le même temps l'émergence d'un marché noir. On va en parler dans un instant.
France Culture. Entendez-vous l'écho? Tiphaine de Roquigny.
Oh,
Vous écoutez Fish on the Seine d'Alalas sur France Culture, d'Entendez-vous l'écho, suite de notre émission consacrée au marché mondial du sable. C'est le premier épisode de notre série sur l'économie de la construction. Nous sommes toujours en compagnie de l'économiste Julien Bueb et du chercheur en sciences environnementales Pascal Peduzzi en duplex de Genève.
Autrefois, la plage s'étendait jusqu'à 60 mètres devant la maison. On avait même l'habitude de jouer au foot sur la plage. Mais comme vous pouvez voir, tout le sable a disparu. Et tout ça, c'est à cause des gens qui viennent sans arrêt prendre du sable devant nos îles.
Ils nous ont envahis et pris notre sable. C'est notre propriété depuis des générations. J'ai tous les documents, regardez là. Là, je parle avec vous, mais j'ai peur. J'ai peur qu'on m'agresse, qu'on me tue. Que Dieu soit témoin, ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils ont saccagé la nature, c'était pas comme ça avant. Ils ont pris notre sable, ils ont tout pris, tout le sable qu'on avait.
Une entreprise d'extraction de sable est venue s'installer à 1 kilomètre d'ici. Et elle a pillé le sol. Au bout de 10 ans, au début des années 90, l'eau est devenue complètement salée. Et pire, elle est devenue acide aussi. Et tous ceux qui ont porté plainte ont été menacés, battus ou emprisonnés.
Des témoignages recueillis dans l'ordre aux Maldives, au Maroc et en Inde. Alors avec la raréfaction du sable et la hausse des prix, un commerce illégal s'est développé, Pascal Peduzzi, avec des conséquences, comme on a pu l'entendre, très importantes pour les populations locales.
Oui, alors c'est comme ça que je me suis aperçu de cette problématique. En fait, elle est venue à moi à travers ce biais. Je faisais une étude à la demande du gouvernement jamaïcain et sur l'érosion des plages. Et au sud de la Jamaïque, il y avait un petit village de pêcheurs, et qui m'ont dit qu'une nuit, des gens sont venus armés de fusils avec un camion, un trax, et ils ont pris leur sable pendant la nuit. Ils ont simplement pris le sable et qui a détruit la plage de leur village, donc les rendant plus vulnérables aux ondes de tempête, etc. Et j'étais absolument scandalisé qu'on puisse menacer l'intégrité physique de qui que ce soit pour du sable. Ça paraît tellement banal. Et malheureusement, comme le montre votre reportage, c'est quelque chose qui apparaît à beaucoup d'endroits. Il y a des gens qui sont menacés, qui sont intimidés, qui sont battus, qui sont emprisonnés s'ils essaient de s'opposer à l'extraction, voire qui sont tués pour du sable. Alors je ne dis pas que c'est la grande majorité. La grande majorité est faite de manière légale et occasionne quand même des impacts sur l'environnement. Mais évidemment, ces extractions illégales se font de manière par définition chaotique, avec des impacts importants au niveau social et environnemental.
Au Maroc, ce serait la moitié du sable utilisé dans la construction qui proviendrait de l'extraction illégale de sable côtier, et notamment au Maroc, comme vous le disiez, ça peut avoir des conséquences très lourdes sur le tourisme, qui est tout de même l'une des ressources centrales du pays.
Oui, alors c'est un petit peu paradoxal d'enlever les plages pour fabriquer les hôtels, parce que les touristes, ils viennent quand même aussi pour voir cette plage et avoir les plaisirs d'être sur une plage. Donc c'est finalement de tirer une balle dans le pied, d'enlever l'intérêt principal touristique en saccageant la plage. Donc il y aurait des manières beaucoup plus durable d'avoir du sable, mais évidemment, ce sable qui est quelque part gratuit sur la plage, c'est-à-dire que n'importe qui armé d'une pelle et dans moyen de transport pour l'acheminer vers les chantiers de construction, peut s'inventer entrepreneur. Donc c'est la difficulté de gérer tout ceci, c'est du fait de la facilité d'accès au sable, que ce soit sur les plages ou au fond des rivières par ailleurs.
Et ce qu'on voit, notamment en Inde, ce à quoi on assiste, c'est à l'émergence de réseaux criminels particulièrement puissants. Les mafias du sable, elles se sont engagées dans une lutte très violente avec les autorités. Un mot peut-être, Pascal Peduzzi, sur la situation spécifique à l'Inde.
Oui, alors j'ai rencontré quelqu'un qui s'est fait battre parce qu'elle avait essayé de s'opposer à l'extraction de sable. Donc il y a effectivement, c'est une réalité de voir ce développement de ces réseaux mafieux. Et il y aurait pourtant un moyen assez simple pour contourner et pour éviter ce genre de développement. C'est que la plupart des demandes de nos infrastructures proviennent des gouvernements locaux qui planifient des ponts, des routes, des écoles, etc. Et à chaque fois que nous planifions une de ces infrastructures, le gouvernement devrait identifier d'où vient la source du sable et des graviers, octroyer une concession à un opérateur et s'assurer ensuite que ces matériaux proviennent bien de cet endroit-là. Avec une certaine traçabilité, ça permettrait de s'affranchir de matériaux qui proviendraient de sources illégales et surtout pour lesquels nous n'avons pas de contrôle non seulement sur la manière dont ils ont été extraits, mais aussi sur la qualité de ce sable. Parce que du sable qui provient de la plage, il est salé et il ne convient pas du tout à la construction.
Il peut provoquer des accidents assez graves, c'est-à-dire que s'il n'est pas bien rincé, le sable marin peut carrément provoquer l'effondrement des bâtiments, Pascal Pézoudi ?
Oui, à ce moment-là, le sel s'attaque en fait à l'armature du béton armé, donc en le faisant rouiller, et au bout de quelques décennies, le bâtiment n'a plus cette structure, ce squelette interne au béton armé. Donc il faut vraiment un sable qui soit exempt de sel, pour arriver à avoir un matériel de construction qui peut avoir la longévité requise.
Julien Buet, peut-être sur ce marché illégal qui s'est développé.
Juste rajouter un mot, c'est qui dit sable salé, si on veut le dessaler, il faut beaucoup d'eau, et dans des pays en stress hydrique, ça pose d'autres problèmes environnementaux encore.
Et ce que vous voulez dire aussi à Pascal Pézoudi, c'est que les États locaux ont peut-être parfois tendance à fermer les yeux pour obtenir, acheter du sable à moindre prix.
Je pense que les gouvernements, que ce soit de manière nationale ou locale, doivent faire face à beaucoup d'urgences. Et quand vous avez une population qui augmente, notamment une population urbaine, du fait de l'exode rural, mais aussi de l'augmentation naturelle de la population, vous devez construire des routes, vous devez construire des hôpitaux, des écoles, etc. Donc vous avez affaire à énormément d'urgences et peut-être que pour Paris ou plus pressé, vous êtes peut-être moins regardant sur la provenance du sable du fait des autres stress qui viennent cumuler votre mandat. Oui. Ceci dit, c'est une réflexion à court terme puisque à long terme, le pillage de ces plages ou la destruction de l'environnement viendra comme effet boomerang et il faudra bien remédier à cette situation qui posera d'autres challenges. Donc c'est vraiment une vision à court terme qu'il faudrait éviter à tout prix.
Il y a tout de même un certain nombre d'États qui mettent en place des mesures pour tenter de lutter contre ce phénomène, ce marché illégal, ce trafic de sable, peut-être en grande partie à cause des conséquences, comme on l'a dit, économiques, sociales, environnementales de ce trafic. On a vu par exemple des opérations de police qui pouvaient être très mises en scène au Libéria ou encore des pays comme le Sénégal, le Togo ou encore le Bénin qui, eux, ont carrément interdit l'exploitation de sable marin, Pascal Pézoudi.
Oui, alors plusieurs pays ont fait ça. Même la Chine a interdit maintenant l'extraction de sable dans ses rivières. Donc je crois qu'il y a une prise de conscience, et c'est bien heureux, du rôle stratégique finalement de ces matériaux pour notre développement et que cela nécessite évidemment une gestion à long terme. Et quand je dis à long terme, c'est vraiment à très très long terme puisque pour l'instant, on ne voit pas tellement comment nous pourrions continuer notre développement sans le sable. Nos sociétés sont littéralement construites sur du sable. Donc nous avons une dépendance totale par rapport à ce matériel.
Et puis cette volonté de régulation est peut-être parfois contre-productive. En l'occurrence, les trafiquants de sable sont avantagés par les taxes qui peuvent être imposées aux entreprises qui, elles, sont dans la légalité, Julien Bueb.
Oui, je ne vois pas directement le lien, mais effectivement,
si elles ont moins de taxes à payer, très simplement, puisqu'elles n'ont pas internalisé
les coûts de production,
leurs externalités négatives.
Pardon, je n'avais pas. Du coup, effectivement, mais il y a rarement en fait des mesures environnementales qui sont prises, parce que de toute façon, l'extraction minière de manière générale occasionne moult des externalités. Les plus simples à mettre en place, on les connaît, ce sont tous ceux qui ont des conséquences en termes de gaz à effet de serre. Donc on va mettre une taxe carbone, qu'elle soit frontière ou nationale, on va mettre en place des marchés carbone, parce que la pollution en tant que telle, elle est à peu près uniforme et quantifiable de manière uniforme, c'est-à-dire qu'on a à peu près un taux de conversion entre le méthane et le CO2, etc. etc. Donc, extraire du sable, ça génère ces effets climatiques-là. Maintenant, quand les effets sur la biodiversité, les effets locaux de destruction d'écosystèmes sont évidemment peu quantifiables, peu monétarisables, et du coup, mettre en place en fait la réglementation essentielle et adéquate pour lutter contre cela est extrêmement dur. Surtout qu'un écosystème n'en vaut pas un autre. Un écosystème ne peut pas être reproduit à un autre endroit. Et du coup, mettre en place des instruments dits économiques pour essayer de réguler la production, la consommation, l'exploitation de sable, pour adopter des comportements vertueux, pour améliorer les pratiques de gouvernance et la traçabilité, sont vraiment délicats. Et généralement, on en revient à des normes, mais les normes aussi sont imparfaites parce que ça peut conduire à interdire toute exploitation. Alors, comme l'a dit M. Peluzzi, on est vraiment très dépendant du sable, comme on peut être dépendant de l'énergie.
Et puis comme dans beaucoup de domaines, il y a toujours la question de l'harmonisation des normes. Aujourd'hui, peut-être qu'il faudrait des normes mondiales, Pascal Peluzzi, et pas seulement des conventions régionales en ce qui concerne le marché du sable.
Alors heureusement, on y vient. C'est-à-dire que cette prise de conscience, certes un peu tardive, va quand même déboucher au mois de mars de cette année, durant l'Assemblée du Programme des Nations Unies pour l'Environnement, qui en fait regroupe l'ensemble des ministres de l'Environnement de la planète. Donc ils ont adopté une résolution sur la gouvernance de toutes les ressources minérales, y compris le sable, qui est bien mentionné là-dedans. Et ce qui est demandé maintenant à mon organisation, c'est de faire vraiment une identification des meilleures pratiques, des standards et de type de gouvernance qu'il faudrait mettre en place dans les pays. Alors, au niveau de la gouvernance nationale, locale également, au niveau également de comment est-ce que nous allons extraire ce sable, puisqu'on peut extraire la même quantité de sable en le faisant correctement ou en le faisant de manière incorrecte. Donc il s'agit d'adopter des standards, des meilleures pratiques, de former les artisans, les compagnies qui exercent cette opération, mmh. et pas prendre ce sable n'importe où, en tout cas dans toutes les zones qui sont dynamiques, comme les rivières, les plages et dans le sable marin. Donc on arrive vraiment avec une demande maintenant, une prise de conscience, mais encore, faut-il la réaliser sur le terrain.
Et puis évidemment, on peut extraire peut-être la même quantité de sable, mais pas au même coût, Julien Buet. Donc aujourd'hui, il y a la question de l'application des législations qui pose question. Et par exemple, on voit que malgré toute une batterie de lois, au Maroc par exemple, le pillage continue.
Oui, c'est sûr, la tarification et l'application, faut-il pouvoir les mettre en place, les faire respecter surtout, parce que les mettre en place, c'est presque facile. Et du coup, effectivement, la réglementation, elle est différenciée selon qu'on soit dans un pays où la gouvernance est forte ou pas. Pour rebondir sur les propos de Monsieur Peluzzi, je voulais juste rajouter, il y a une initiative internationale sur les activités extractives. Le sable n'est pas encore mentionné dedans. Je suis heureux de l'apprendre au niveau des Nations Unies, c'est au programme des Nations Unies pour l'environnement, ça soit vraiment dedans. Mais il y a encore des choses à faire, puisque pour l'instant, c'est assez segmenté dans la législation.
Alors, les choses bougent au niveau des Nations Unies, et puis on peut peut-être aussi imaginer, Pascal Peluzzi, une meilleure coopération entre les États qui seraient particulièrement touchés par l'épuisement de la ressource, notamment peut-être la mise en commun d'un certain nombre de recherches scientifiques pour trouver des substituts au sable.
Ah, ça serait intéressant, parce que effectivement de faire voyager le sable, ça a un coût économique qui est quand même assez important. Donc c'est plutôt trouver des solutions locales. Maintenant on peut échanger au niveau des pratiques, au niveau des techniques. Comme je le disais, certains pays ont développé des manières de faire un meilleur recyclage du sable. Certains autres ont trouvé des substituts. Donc par exemple, vous pouvez utiliser les cendres quand nous faisons brûler nos déchets, nous avons des cendres qui doivent être entreposées. Maintenant, en lavant ces cendres et en les utilisant à bon escient, on peut remplacer une partie du sable pour sa production dans le béton. On peut également faire du béton léger avec de la sciure de bois, en remplaçant une partie du sable par la sciure de bois, qui donne un béton étonnant. C'est un béton qui flotte sur l'eau. Alors, vous n'allez pas faire avec ce béton un pilier de pont, qu'on soit d'accord. Mais si c'est pour des cloisons ou pour une chape au sol, par-dessus un chauffage au sol, vous pouvez très bien avoir un béton beaucoup plus léger, ce qui demandera une structure aussi plus mince. Donc, vous allez aussi économiser là encore du sable. Donc, il y a quand même pas mal de choses auxquelles on n'a même pas commencé. C'est que le début, en fait, de cette réflexion. Et je pense qu'on va pouvoir trouver beaucoup de moyens pour de substitution, de remplacement, de diminution de cette demande de ressources.
Sur cette question des substituts, Pascal Peluzzi, je voudrais vous faire entendre Benoît Hartmann. Il est porte-parole de France Nature Environnement.
Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. C'est une ressource épuisable. C'est pour ça qu'on se bat pour qu'il y ait des alternatives. Nous, on aime les murs démontables. Un mur où je reprends le même mur et je vais le mettre ailleurs. Parce qu'on ne sait pas faire du béton vert, c'est faux. Le béton a un bilan environnemental. Faire du béton ou faire du verre avec du sable, ça coûte énormément d'énergie. Parce qu'il faut mettre beaucoup d'énergie pour le faire changer d'état. On ne sait pas faire du béton vert. Ce n'est pas vrai qu'avec des gravats de béton, on peut refaire du béton. C'est une légende qui est vendue par les gens qui fabriquent du béton et qui vendent du béton. La vraie alternative, c'est de se passer de ce sable. Il faut apprendre à s'en passer.
Julien Pueb, une réaction au propos de Benoît Hartmann.
Oui, j'ai tendance à être d'accord avec ce qui vient d'être dit, car il y a deux choses qu'on peut en tirer, c'est-à-dire, ça a déjà été évoqué, hein, mais c'est d'un côté le recyclage et de l'autre côté les substituts. Alors, les substituts, ça nécessite, il faut voir, il faudrait faire une analyse en cycle de vie du produit pour voir quel est le coût énergétique ou en termes de biodiversité, pour voir si le substitut n'est pas pire en fait que l'utilisation du sable. Au départ, et au niveau du recyclage, en fait, il y a quand même pas mal... Le recyclage n'est jamais parfait, il y a énormément de pertes en ligne. Et du coup, on se retrouve... Alors même si le sable, c'est relativement facile à recycler, encore faut-il déjà organiser la collecte des déchets et des gravats pour pouvoir le recycler. C'est pas toujours le cas dans bien nombre des produits, dans grand nombre de produits. Il y a toujours déjà de l'usage dispersif, c'est-à-dire que des fois n'importe quelle matière, et ici le sable qu'on utilise, ça va être dispersé, on va pas pouvoir le récupérer totalement pour ça. Il peut y avoir aussi de la perte mécanique parce qu'une partie va être mise en décharge, c'est ce que je vous disais à l'instant. Il y a aussi il peut y avoir de la perte fonctionnelle du recyclage, c'est-à-dire que la propriété du sable pour laquelle on l'a utilisé, ses propriétés mécaniques, elles vont peut-être un peu disparaître selon l'usage qui en est fait. Et enfin, il peut y avoir la perte fonctionnelle qui est due à l'usage dégradé en fait qu'on va faire de la matière. Et donc tout ceci en fait va conduire une imperfection du recyclage du sable en tant que tel, mais aussi de toutes les matières en général, et ça va nécessiter évidemment énormément d'énergie de toute façon pour mettre en place ce genre de processus. Donc qui dit énergie dit encore autre problématique environnementale.
On peut effectivement se poser la question, Pascal Pezzuzzi, si parfois le remède n'est pas pire que le mal, et c'est compliqué peut-être d'évaluer le coût énergétique de la fabrication de ce béton qui se voudrait vert.
Alors moi, j'aime pas l'idée du béton vert parce qu'effectivement, ça c'est de la poudre aux yeux. Par contre, non, le recyclage, il faut le faire. Merck, non, c'est pas la première chose à faire. La première chose, c'est de réduire. Donc, est-ce qu'il y a vraiment des besoins pour telle et telle infrastructure? Est-ce qu'elles sont faites à des raisons spéculatives ou elles sont faites à des raisons symboliques comme la tour Burj Khalifa où personne va aller se mettre à 800 mètres de hauteur son bureau puisqu'il faudra passer 20 minutes dans les ascenseurs. C'est déjà assez grave d'être bloqué dans le trafic. Si encore, il faut encore attendre pour être en haut de l'ascenseur, c'est ridicule.
Donc, une tour qui, en l'occurrence, est peu occupée. Je crois que c'est un tiers de la tour qui n'est pas occupée.
Oui, parce que personne n'a envie d'être tout là-haut. Donc, il y a des choses qui sont réalisées pour des images, pour finalement, c'est un petit peu pour la propagande dans le pays, pour l'image dans le pays. Maintenant, on peut réduire un certain nombre de choses. Après, on peut le faire de manière différente. Si vous voulez substituer quelque chose, c'est pas forcément substituer d'une matière par une autre. Ça peut être substitué en comportement par un autre. Et, par exemple, on construit beaucoup de routes. On ferait mieux de construire des métros. Parce que quand vous construisez des métros, d'abord, vous trouvez avec du matériel. Parce que vous creusez des galeries. Donc, vous avez du matériel qui potentiellement peut être utilisé pour la construction. Ensuite, vous avez dans un métro, une rame de métro, vous mettez une quantité prodigieuse de personnes qui normalement seraient des conducteurs et qui auraient chacun leur voiture individuelle. Donc il y a des manières de gagner sur plusieurs choses. Quand on parle de substitution, c'est pas forcément substituer la matière à la matière, mais c'est substituer l'usage égal que l'on en fait. En deuxième lieu, il faut quand même recycler, sinon c'est de la perte et je pense pas, il faudrait regarder vraiment le bilan énergétique, mais quand on compte le recyclage de l'aluminium par rapport à l'extraction de la bauxite, de sa transformation, de son transport, etc., on a largement gagnant en faisant du recyclage de notre aluminium plutôt que d'en aller chercher dans la nature. Donc c'est la même chose pour le sable et le gravier. Il y a vraiment un gain ici qui est intéressant et d'ailleurs qui rentre pour 30% des nouveaux matériaux, de substitution aux nouveaux matériaux en Grande-Bretagne par exemple.
Et l'un des enjeux peut-être est de réussir à exploiter le sable du désert. Il y a des chercheurs britanniques et allemands qui ont réussi à fabriquer du béton à partir de sable du désert. Grâce à un liant naturel qui remplace le ciment. Ce sont des recherches qui vous paraissent prometteuses, Julien Pueb?
J'espère, mais il y a toujours un coût thermodynamique. En fait, il y a des limites thermodynamiques. On est dans un système géobiophysique où nous avons qui est régi par des lois de thermodynamique, notamment le deuxième principe de thermodynamique qui dit que de toute façon on va dépenser de plus en plus d'énergie pour fabriquer les choses. Et malgré le progrès technique, on n'arrive pas à utiliser de moins en moins d'énergie pour produire la même quantité soit de matière, soit d'énergie, etc. Et on a beau inventer des nouveaux produits, on dépensera de plus en plus d'énergie. Et cette énergie est en plus de plus en plus difficilement accessible. Donc sans ça, je rejoins complètement les propos. C'est effectivement, il faut développer quand même des alternatives. Mais comme l'a dit monsieur justement Peludi, je suis complètement d'accord. Il faut d'abord penser à faire de la sobriété, c'est-à-dire réduire les besoins, avant, après, d'engager, en fait, d'éventer des produits de substitut qui sont effectivement, il en faut. Et comme il faut du recyclage, mais c'est toujours dans un deuxième temps. Et surtout pas vendre ces alternatives, que ce soit du recyclage ou des nouveaux produits, comme étant la panacée qui va sauver l'humanité. C'est pas vrai du tout. Il faut d'abord repenser les usages.
Et que peut-on dire de l'exemple du Danemark, par exemple, qui a déjà réduit son utilisation de sable marin de 94% à 12% en 20 ans? Est-ce que c'est une recette qui pourrait éventuellement être appliquée ailleurs, Pascal Peduzzi?
Oui, toutes les bonnes pratiques sont à distribuer aussi globalement que possible. Donc effectivement, les pays scandinaves sont souvent en avance sur toutes les pratiques environnementales. Et là, on peut gagner en exemple, en échange de technologies, en échange de bonnes pratiques. Et effectivement, il faudra voir comment ils sont arrivés à ce résultat-là. Alors c'est plus facile dans les pays développés que dans les pays en voie de développement, parce que si on parle de recyclage, il faut déjà avoir des infrastructures à recycler pour, comme dans votre reportage, prendre en mur pour le mettre ailleurs, il faut déjà avoir ce mur, ce qui n'est pas le cas dans les pays en voie de développement qui ont un manque flagrant d'infrastructures, qui sont encore avec en retard à combler dans leurs infrastructures. Donc leur parler de recyclage pour l'instant, ils n'ont pas grand chose à recycler. Donc là, il y a quand même des gains qui sont avant tout pour nous, les pays les plus développés. Et là, nous, il y a une question de sobriété. En soi, je rejoins tout à fait les propos de monsieur du UPUEP, c'est que cette sobriété, ça va dans un nouveau style de vie. Et il faut arrêter de croire que c'est en ayant plus de matériaux à disposition, plus de richesses pécuniaires. Il faut remplacer ça d'aller vers un style de vie qui est beaucoup plus sobre et regagner en fait une satisfaction qui est pas forcément mercantile. On peut avoir énormément de plaisir dans sa vie avec des choses qui sont non matérielles. Actuellement, évidemment, c'est pas très vendeur de dire ça, puisque le marketing nous pousse à vouloir acheter un maximum de choses, mais il faut vraiment qu'on reprenne le contact avec qu'est-ce qui vraiment nous donne du plaisir et du bien-être, et c'est pas en croulant sur les matériaux qu'on va gagner ce bien-être.
Vous parliez du rôle des pays développés dans justement la gouvernance et le respect de l'environnement, une meilleure application du droit. En l'occurrence, l'Union européenne dispose d'une bonne réglementation sur le sujet, mais alors, comme on le disait, de la réglementation à l'application, il y a parfois un monde, et ce à quoi on assiste, c'est que la France a été épinglée plusieurs fois justement pour ne pas avoir respecté le droit communautaire de l'environnement, Julien Bueb. Donc on voit que sur cette question, il y a encore une vraie problématique d'application et de respect du droit et des injonctions qu'on peut donner au pays.
Oui, tout à fait. La France est généralement de mauvais exemple en fait en termes d'application du droit européen, notamment des normes environnementales, hein, que ce soit sur des engrais azotés ou autres. On retrouve ça un peu partout, dans tous les domaines environnementaux. Et effectivement, la France se fait souvent condamner, malheureusement, pour cette transcription tardive du droit européen. Et donc, plus largement, la question de mise en place en fait de bonnes pratiques, oui, je pense qu'on a plus de leçons à recevoir des pays d'Europe du Nord que nous à en donner, même s'il faut quand même qu'on passe à la vitesse supérieure dans ces choses-là, notamment pour les questions de sobriété. Je crois qu'il y a beaucoup de travaux qui sont faits dans des organisations, soit internationales, soit plus locales, je pense à l'association Négawatt, entre autres, qui font des très bonnes choses pour promouvoir ces bonnes pratiques, en fait, notamment le principe de sobriété.
Pascal Peduzzi, sur le cas spécifique de la France.
Moi, je pense que la France, elle a actuellement un poids très important au niveau diplomatique depuis les accords de Paris. Donc, les autres pays regardent la France quand même comme ayant un rôle moteur et leader environnemental, ce qui était peut-être pas toujours le cas historiquement. Et je crois que depuis l'accord de Paris, il y a vraiment une force très importante ici qui donne un rôle à la France, ce rôle de leader sur la position du climat, mais ça peut être également sur d'autres pratiques. Donc, certes, peut-être que la France se fait épingler sur quelques problématique de droit européen, au moins, je dirais, c'est plutôt bien qu'elle se fasse épingler. Ça veut dire qu'il y a vraiment quelqu'un qui est dans le pilote, qui est en pilote dans l'avion, qui regarde que les choses soient faites selon les règles, et si elles ne le sont pas, qui donne des correctifs. Donc, je pense que c'est intéressant de voir déjà que c'est une Europe qui fonctionne bien quand même, qui a des régulations, qui essaie de mettre ceci en place et qui progresse. C'est pas le cas dans tous les pays où il n'y a pas de gouvernance, et même des fois il y a une gouvernance, mais enfin il y a des lois, mais par contre elles sont pas appliquées parce qu'il n'y a pas de possibilité de faire du monitoring et de mettre en place des choses qui fassent progresser un petit peu et de respecter ces règles. Donc je pense qu'au moins en France et en Europe il y a cette volonté là.
Et peut-être qu'on pourrait aussi créer des normes, des labels qui contraindraient les acteurs économiques à se montrer plus respectueux de l'environnement, Julien Blum.
Encore une fois, il faut avoir les moyens, il faut se donner les moyens de faire ce genre de choses et de les mettre en place et de vérifier. Les processus de vérification sont coûteux et il faut accepter ce coût. Je mettrais juste un bémol aussi sur l'Union européenne qui a quand même du mal à appliquer en fait toutes les clauses environnementales lorsqu'elle passe des accords commerciaux bilatéraux avec des pays, notamment des pays en développement. Généralement, entre accords commerciaux et accords sur les questions de droits de l'homme, questions environnementales, généralement, il y a un petit hiatus.
Alors, on arrive presque au terme de cette émission. Pascal Peduzzi, comment est-ce que vous voyez aujourd'hui l'avenir de cette exploitation mondiale du sable et l'avenir aussi de cette régulation dont on a parlé en cette fin d'émission ?
En tout cas, il y a un enjeu majeur. Donc, le but de mon organisation, c'est de faire en sorte que les gouvernements prennent conscience, en fait, de cet enjeu. Donc, travailler au niveau de la gouvernance, travailler aussi au niveau de l'économie circulaire, comme on en parlait, pour passer de cette économie linéaire où on extrait du matériel, on le transforme, on l'utilise et ensuite on le jette en décharge. Il faut vraiment arriver vers cette économie circulaire où chaque composante, et c'est pas seulement le cas du sable, mais de tous les objets que nous utilisons, à la fin de vie de cet objet, il faut que ces composantes, elles puissent être récupérées et réutiliser pour éviter de prélever dans la nature à tout bout de champ. Donc ce mouvement vers l'économie circulaire est très important. Il y a des développements technologiques qui vont nous permettre de gagner un petit peu en efficacité. Et donc il faut partager cette technologie, il faut vraiment qu'il y ait un échange qui soit possible, donc déjà identifier les meilleures pratiques et puis les disséminer. Il y a vraiment ce changement ensuite de style de vie, comme j'en parlais, qu'il faut aller vers un développement qui est plus harmonieux, plus durable, plus harmonieux avec la nature, à tout point de vue, et je pense qu'on y sera gagnant en qualité de l'air, en qualité de l'eau et en qualité de relations humaines.
Julien.
Et finalement, oui, le dernier point, il y a la possibilité après l'extraction de renaturaliser ces sites, de pas les laisser comme ça dans un état pitoyable et de vraiment arriver à renaturaliser ces sites après.
Julien Beb, vous placez aussi vos espoirs dans l'économie circulaire et aussi le changement de comportement, un nouveau rapport à la consommation.
Ouais, la consommation à la production aussi. C'est presque essentiel car il y a une étude qui est sortie il y a pas longtemps, je me demande si elle vient pas de l'ADEME, qui dit que les consommateurs ne sont responsables que de 25% des gaz à effet de serre. Ça reste que sur les gaz à effet de serre. Et le reste, ça deviendra du modèle du producteur et de l'État. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Et je place avant même mon espoir dans l'économie circulaire de faire la sobriété. C'est vraiment le maître mot, sobriété. Et on commence par ça et après on fait de l'efficacité et donc de l'économie circulaire.
Et c'est l'heure du journal de l'écho de Xavier Martinet. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffane.
Alors l'avenir de la deuxième compagnie aérienne Aigle Azur, la compagnie aérienne française, est en suspens. Il y a une clôture des offres de reprise en ce moment. Un seul repreneur qui apparaît, Air France KLM.
Et oui, beaucoup d'appelés, peu d'élus, puisqu'ils étaient 6 évoqués dans la presse pour reprendre cette compagnie. Selon le type de repreneur, en tout cas 3 scénarios étaient possibles. Reprise intégrale, vente à la découpe ou bien liquidation. Preuve qu'Aigle Azur intéresse toujours, malgré une dette de peut-être 40 millions d'euros, avec deux enjeux. D'une part, le parc aérien, 12 appareils, et puis surtout les précieux slots, les créneaux horaires occupés par Aigle Azur à Orly. Ils sont 9 800, environ 4% du total. Alors si c'est l'offre d'Air France, il est possible que ce soit ces derniers qui soient visés plus que les appareils. Écoutez ce qu'en disait tout à l'heure le professeur à la Montpellier Business School et chercheur à Polytechnique, Paul Chiambaretto.
Avoir des créneaux sur un aéroport comme Orly, sur lesquels les créneaux sont limités, est un véritable enjeu et un véritable critère de différenciation pour les compagnies aériennes. Donc c'est là-dessus que va se jouer le gros de la bataille. Mais l'idée de se dire que l'on va reprendre intégralement la compagnie aérienne, c'est aussi une façon de se dire qu'on va protéger l'emploi français, qu'on va protéger le pavillon français. Pour autant, un certain nombre de difficultés d'Aigle Azur ne vont pas forcément disparaître. Il faudra quand même très fortement revoir son réseau et sa stratégie si on veut en faire une compagnie aérienne qui soit un peu plus rentable. Aigle Azur est la dernière victime, en effet, de la faiblesse du pavillon aérien français. Actuellement, à peu près 40% des vols qui sont au départ ou à l'arrivée de la France sont effectués par des compagnies aériennes françaises. Et en fait, la part de marché de l'aérien français baisse de 1 point chaque année. Et finalement, ben, avec la faillite de Glazure, on est toujours dans cette continuité. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de marges de manœuvre, ou en tout cas de progrès à réaliser pour améliorer le transport aérien français et sa compétitivité.
Voilà, et Glazure et ses 1200 emplois qui ne seront pas forcément sauvés, mais en tout cas, ce ne sera pas forcément le scénario de vente à la découpe qui se profilerait, Xavier.
Oui, c'est ça, à voir ce que fera Air France, si c'est tout reprendre ou juste préempter ces fameux créneaux horaires. En tout cas, parmi les autres noms évoqués, il y avait Vueling, mais aussi l'ancien PDG du low-cost Hop, filiale de Air France, Lionel Guérin. Une alliance entre ce dernier et Air France avait la faveur du syndicat des pilotes SNPL Aigle Azur. Il y a un comité extraordinaire d'entreprise tout à l'heure à 15h, on en saura plus à ce moment-là.
On passe au bref, mais on reste dans les airs, puisque c'est une autre compagnie, British Airways, qui est paralysée, Xavier.
Eh oui, dans les airs, plutôt clouée au sol, puisque presque 100% des vols annulés aujourd'hui, dit le communiqué, pour la première grève des pilotes de son histoire. 93% de ces 4300 pilotes avaient voté cette grève pour des revendications salariales, alors que, disent-ils, la compagnie fait des profits. Elle répond qu'elle a déjà proposé 11,5% d'augmentation sur 3 ans, mais les relations avec la direction et le directeur Alex Cruz se sont tendues. Il accusait sur Sky News aujourd'hui une opération syndicale, je cite, cynique. En tout cas, aucun des 800 vols intérieurs aujourd'hui. Pour un des pilotes vétérans interviewés par le Guardian, en tout cas, pas de cynisme. Les pilotes sont des penseurs logiques. C'est la communication avec Alex Cruz qui les a rendus plus en colère et non pas moins.
Un dirigeant d'entreprise qui, lui, va démissionner, c'est le directeur général de Nissan, Hiroto Saikawa.
Décision, oui, qui vient d'être prise par le conseil d'administration. Un audit interne accuse le quasi-équivalent de Carlos Ghosn d'une rémunération indûment perçue via ce qu'on appelle le Share Appreciation Rights, c'est-à-dire une somme indexée sur la plus-value des actions Nissan. En tout cas, Saikawa a déjà promis lui de rembourser ses 400 000 euros trop perçus, mais ça n'a pas suffi. Démission effective dans une semaine.
Et puis pour finir, on revient en France avec ce plan pour refonder les urgences qui est présentée dans quelques minutes par la ministre de la Santé.
Oui, Agnès Buzyn qui avait annoncé dès hier, je la cite, un budget dédié pour régler la crise des urgences, de grèves intermittentes et des mesures provisoires dont des primes de risque avaient été annoncées. Elle doit présenter à 15h ce budget spécifique de 600 millions d'euros sur 3 ans pour des ouvertures de lits, mais pas forcément plus de postes, dit-elle. Une réforme de la tarification prévue aussi, ceci alors que le collectif Interurgence réclamait ce matin sur France Info, je cite encore, des preuves en termes d'emploi, en termes de lits et en termes de rémunération pour l'ensemble du personnel des urgences. Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart and cast away. Just another product of today. Rather be the hunter than the prey. And you're standing on the edge, face up, 'cause you're a natural. A beating heart of stone. You gotta be so cold to make it this world. Yeah, you.
On se quitte avec Imagine Dragons et leur titre Natural. Merci beaucoup Pascal Pedditti et Julien Bueb de nous avoir accompagnés aujourd'hui. On se retrouve demain pour une émission consacrée aux travailleurs du bâtiment. En attendant, n'hésitez pas à écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho. Call it to the beast, out of world without the peace, face a bit of the truth, the truth.